Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Coucou. Vous êtes toujours aussi beau. Novembre 1957, une femme disparaît à pleine file de petite ville perdue d'Amérique. Les enquêteurs mis sur l'affaire ne se doutent pas une seule seconde qu'ils s'apprêtent à découvrir que dans les alentours de cette petite ville campagnarde vit un homme qui sera surnommé plus tard la Goule ou le Boucher de Plainfield et qui, avec ses victimes, fabrique toutes sortes d'objets et aime passer du bon temps avec les corps qu'il trouve dans les cimetières alentours. Cet homme, il s'appelle Ed Gein et s'apprête à inscrire son nom dans l'histoire judiciaire américaine. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le monde, guys. On se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, spéciale tueur en série, dans laquelle on va enfin parler d'Ed Gein, le fameux tueur qui transformait ses victimes en meubles pour la maison ou en objets. Vachement joyeux comme début d'HVF. J'ai écrit cette affaire grâce au livre Ed Gein, le psycho de Gilbert Galerne, qui résume toute l'histoire du tueur, son enfance, son adolescence, ses relations ambigu avec sa mère, et surtout vous allez voir à travers cet HVF que l'histoire d'Ed Gein, c'est pas juste un type voilà qui vivait au milieu de nulle part dans sa ferme et qui allait déterrer des corps dans des cimetières pour en faire des meubles ou juste pour avoir de la compagnie chez lui. C'est bien plus profond que ça, et là je tiens le livre à l'envers, voilà c'est mieux, c'est bien plus profond que ça, vous allez voir, parce que bah, Ed Gein, comme tout le monde, il a eu une enfance, il a une histoire avant ses meurtres, bon qui est pas joyeuse, je vous lis tout de suite. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et de ne surtout pas manger devant cet HVF, et on est parti. La ferme de l'horreur. Notre histoire prend place aujourd'hui à Plainfield dans le Wisconsin, qui, au moment des faits en 1957, est un coin paumé d'Amérique. Mais vu ce que j'ai pu lire sur les articles d'époque qui décrivent la ville, Plainfield, au 21e siècle, a pas vraiment changé. Hein. On peut se mettre au centre-ville avec un filtre noir et blanc, nous revoilà en 57. Ce samedi 16 novembre, il n'y a pas grand monde à Plainfield, c'est l'ouverture de la chasse, et Bernice Warden, propriétaire d'une petite épicerie, en profite dès 8h30 du matin pour ranger un petit peu son magasin. Tous les hommes du coin sont dans les bois en train de faire pampan sur Bambi entre deux whisky, elle risque pas d'être dérangée de sitôt. Mais surprise, alors qu'elle est en plein rangement entre deux boîtes de lentilles et de haricots, elle voit un homme se garer en face du magasin. Bernice se dit que c'est sûrement un chasseur qui a besoin de quelque chose en dernière minute, ça arrive. L'homme marche lentement sur le parking, fusil derrière le dos, puis pousse la porte. Bernice le salue, elle le connaît bien ce type, c'est le débile qui vit dans la ferme d'à côté. Il est pas bien méchant. Mais d'un coup, il la met en joue. Un foutu braquage dans l'épicerie de Plainfield. Bon Dieu, on va en parler pendant un siècle, se dit Bernice. Elle demande à l'homme ce qu'il veut, elle a pas grand chose dans sa caisse, mais s'il a faim ou a besoin de quelque chose à boire, qu'il se serve. Il est 17h lorsque le fils de Bernice, Frank, rentre de la chasse. Mais il n'arrive pas à ouvrir la porte qui a été fermée à clé. Pourtant, il y a de la lumière à l'intérieur de la boutique. Mais pourquoi le camion de livraison de sa mère n'est plus là ? Par réflexe, Frank décide de se rendre à la station-service à quelques mètres de là pour voir si quelqu'un a vu sa mère. Le pompiste, Monsieur Mushinsky, lui explique que non, le magasin semble fermé depuis ce matin. Personne n'a vu Bernice dans le coin. Frank commence à paniquer, mais par chance, il peut donner l'alerte rapidement puisqu'il est adjoint du shérif de Plainfield. Alors, il contacte les trois autres hommes qui composent la police du coin. Le shérif, Arthur Schley, dont le bureau est à 25 km de là. Il n'a pas encore eu le temps de déménager parce qu'en fait, à la base, il n'est pas du tout shérif, il était chauffeur poids lourd, mais à 32 ans, il a décidé de changer de métier et il s'est retrouvé un peu par hasard shérif à Plainfield, il en fallait bien un, c'est bien payé, on est dans un bureau au chaud et généralement dans ce genre de coin d'Amérique, il se passe pas grand chose. Alors il va pas être déçu. L'équipe est aussi composée d'Arnold Fritz et Dan Chase, deux flics. Les agents se donnent rendez-vous devant le magasin de Bernice et enfoncent la porte. En avançant dans la boutique, Frank comprend tout de suite que sa mère a été enlevée, voire pire. Il découvre des traces de sang ici et là jusqu'à la porte arrière et surtout des impacts de balles sur les murs. L'homme tente de garder son sang-froid, des renforts sont appelés, un marshal plus expérimenté, Specs Murty, et d'autres hommes chevronnés viennent en renfort. Rapidement, sur le comptoir de la boutique, on découvre un bon de commande pour de l'antigel au nom de Ed Gain. C'est à ce moment précis que, sans le savoir, les flics de Plainfield vivent ce qui deviendra plus tard l'une des pires affaires criminelles que l'Amérique ait connues, bien avant Jeffrey Dahmer. Elle va donner lieu à des adaptations au cinéma, à la télé, en BD, en HVF. Oui, j'ai le droit de m'incruster aussi, je fais ce que je veux. Ed Gein, Frank, le fils de la disparue, le dit, c'est un type bizarre qui vit reculé dans sa ferme un peu plus loin. Il est passé hier pour lui demander s'il allait à la chasse aujourd'hui, et depuis quelque temps, il avait l'air de tourner autour de sa mère de façon un peu bizarre. À 19h, une carte de Plainfield est mise sur la table pour localiser la ferme d'Ed Gein. Une première équipe a pour ordre de fouiller les alentours discrètement, voir si on retrouve la camionnette de la disparue. La seconde, composée des agents Chase et Marty, a pour ordre d'entrer à l'intérieur de la ferme. Sacré bourbier d'être envoyé en pleine nuit dans la ferme d'Ed Gein. Moi je vous le dis, préparez un seau pour vomir au cas où. Alors, nos deux agents Chase et Marty, ils arrivent devant la ferme et comme vous le voyez, sauf si vous écoutez cet HVF en podcast, c'est pas super accueillant. La ferme est là, au milieu de nulle part, on est en novembre, l'ambiance est glaciale et surtout, ça semble presque abandonné. Certaines fenêtres sont même barricadées, ça ressemble plus à un taudis qu'autre chose. Chase et Marty toquent, mais personne ne leur répond. Sans mandat de perquisition finalement, ils font demi-tour et se rendent chez la famille Hill. Une famille qui connaît bien Ed, puisqu'il a l'habitude de faire régulièrement des petits boulots pour les Hill, et le soir, généralement, il mange chez eux après le travail. Par chance ce soir-là, Ed est bien là, chez les Hill, il s'apprêtait à partir. On lui demande gentiment de grimper à l'arrière du véhicule de police et une conversation s'engage. Ed dit
Quelqu'un m'a piégé. Piégé pourquoi ?
Ben, Bernice Worden.
Ben quoi ?
Ben, elle est morte, non ?
Morte ?
Comment tu sais qu'elle est morte ?
J'ai entendu dire.
Ed Gein est emmené au bureau du shérif et placé en cellule. Informé de l'arrestation, Arthur Schley et Leold Schlopoester... Non, je viens pas d'insulter toute votre descendance dans une langue ancienne, vous en faites pas. Fonce à la ferme d'Ed qui vient d'être arrêtée. Alors, ils ont pas de mandat, mais au pire, s'il y a rien dans la ferme, ils mettront ça sous le tapis, l'air de rien.
Arrivé devant la bâtisse, le shérif et le capitaine ne perdent pas une seconde. La porte de la pièce annexe, juste ici à droite, semble la plus fragile. Ils l'enfoncent et bon Dieu, qu'est-ce que ça pue la mort ! Arthur et Leold ont le réflexe de se couvrir le visage. Cette odeur, ils la connaissent. Enfin, Leold en tout cas. Arthur, c'est sa première vraie affaire. Lui, il a signé pour un bureau chauffé et un insigne, pas pour se retrouver dans ce genre de galère. Plus ils avancent, plus l'odeur devient forte. En passant l'une des portes, les deux hommes se figent d'horreur. Bernice Worden est là. Nu, suspendu au plafond par les pieds. Ils savent que c'est elle correspond à son physique, le corps est encore frais, même s'il manque la tête, ils savent qu'elle est leur disparue. Le shérif Arthur sort dehors pour vomir un grand coup, il manque même de s'évanouir. Le capitaine Lyod appelle des renforts, la ferme d'Edgen s'apprête à entrer dans les archives. À l'intérieur, les agents envoyés dans cet enfer vont découvrir l'antre d'un homme qui, depuis plusieurs années, 10 ans pour être précis, déterre les cadavres du cimetière du coin pour en faire des meubles, des objets, des costumes et même passer du bon temps avec eux. De temps en temps, par pulsion, il tue aussi pour avoir de la chair fraîche. Mais alors, comment cet homme, en apparence normale, a pu commettre de telles horreurs? Je veux dire, Ed, vous le croisez à la boulangerie le matin, il lui manque 10 centimes pour sa baguette, bah vous lui donnez gentiment, vous imaginez pas qu'hier soir le type, il s'est confectionné un pantalon en peau humaine. Eh bien, comme d'habitude, pour comprendre comment on a pu en arriver là, il faut remonter dans l'enfance d'Edgen. Une enfance dérangeante. Edward Theodore Gain, dit Ed Gein, né le 27 août 1906 à La Crosse, dans le Wisconsin, et dès le début, c'est catastrophique. Le père de Ed, George Philip Gein, est un alcoolique. C'est un type complètement paumé qui a perdu ses parents très jeunes qui ont été emportés lors d'une inondation. Il a été placé en foyer, a été adopté par un couple de personnes âgées qui n'ont vu en lui qu'une paire de bras pour s'occuper de la maison pendant leurs vieux jours, et George n'a rien vécu, en gros, il a été baladé ici et là jusqu'à l'âge adulte. La mère de Ed, Augusta, a été élevée dans une famille très stricte et très religieuse, au point qu'au fil des années, elle a plongé dans le fanatisme. Mais ça, George ne le voit pas vraiment quand il se marie avec elle, l'amour rend aveugle. Le couple a donc Ed Gein en août 1906. Il est le deuxième enfant, Henry, l'aîné, est arrivé le 17 janvier 1902. Et rapidement, rien ne va dans la famille. George ne supporte pas les délires de sa femme, il n'en peut plus d'entendre parler de religion matin, midi et soir. Pour Augusta, tout est péché. Dès qu'on passe la porte de la maison, on plonge dans le péché. Faut parler à personne, ne pas avoir de contact avec les filles ou avec des couples non mariés. Avant de manger, faut prier. George se déchire la tête au bar et à table pour éviter d'entendre les prières de sa femme. Et les enfants Gein, dont Ed, n'y échappent pas parce que, bien sûr, dans la majorité des cas, la religion vient des parents qui, dès le plus jeune âge, bourrent le crâne de leurs enfants. Et Ed, lui aussi, n'en peut plus. Tous les soirs, sa mère vient lui lire un extrait de la Bible. Les seules fois où Ed prie avec sa mère, c'est pour demander à Dieu la mort prochaine de leur père alcoolique et violent. Mère et fils se réunissent à la bougie devant le portrait de George, qui est au bar du coin, pour demander à leur dieu de littéralement le foudroyer dès que possible. T'imagines, tu rentres chez toi après 10 heures de boulot payé une misère à l'époque, tu passes ta porte et tu vois ta femme et tes gosses en train de prier pour ta mort prochaine. Tu m'étonnes que le pauvre George, il a plongé dans l'alcoolisme. Bon, les prières ça fonctionne pas bien, puisque George survit malgré le fanatisme d'Augusta, bah, y a personne qui l'écoute là-haut, et elle continue de se prendre des bouteille sur le crâne lorsque son mari a trop bu et qu'il a une crise. C'est pas la grande joie chez les Gein et ça va pas aller en s'arrangeant. En 1913, alors que Ed a 7 ans, Augusta, grâce aux économies réalisées avec son petit commerce, je vous l'ai pas dit, mais elle tient une boucherie pendant que George galère à garder un travail plus d'une semaine, eh bien, Augusta va faire déménager toute la famille dans une ferme à Plainfield. Elle a un seul but en installant tout le monde là-bas, vivre grâce à des petits boulots et isoler le plus possible sa famille et les plonger dans la religion, mais parce qu'elle y arrive toujours pas, à part elle dans la maison, personne ne croit en grand chose. À Plainfield, Ed va à l'école et à chaque fois qu'il rentre, sa mère l'attend avec l'eau bénie de la rivière pour lui éclabousser la tronche et le laver de tous les péchés qu'il a pu faire tout au long de la journée. Il doit être pur pour aller plus loin dans la maison. T'as eu une journée de cours pourrie, tu rentres, ta mère elle t'asperge d'eau en hurlant « Vader et trop Satanas », faut avoir les nerfs solides. Ed passe alors le plus clair de son temps libre dans sa chambre à moitié vide, à lire des livres qu'il ramène en cachette chez lui pour que sa mère ne lui confisque pas. Les seules fois où il a le malheur de se faire surprendre avec quelques amis à Plainfield, Augusta lui saute dessus pour lui prêcher ses bonnes paroles et lui dire que ses amis vont le plonger dans le péché. Tout cet enfer entre l'alcool, les violences, le fanatisme, l'enfermement va durer jusqu'en 1940, date à laquelle George Gaine meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 66 ans. Augusta exulte de bonheur. Elle remercie Dieu sur le lit de mort de George pour l'avoir débarrassé de cet être impur, alcoolique et violent. À la mort de George, Henry, l'aîné de la famille, a 38 ans. Ed a 34 ans. Ça fait un sacré bond dans le temps et je vous ai pas vraiment parlé de l'adolescence des garçons parce que ils sont vraiment renfermés dans leur ferme. En fait, on sait surtout que Henry, le frère aîné, réussit à se sortir de là, à avoir quand même des relations amicales, à sortir avec des filles, à s'amuser. Mais Ed, de son côté, il est vraiment enfermé dans la ferme avec sa mère et son père. Ed, de son côté, est complètement renfermé. Psychologiquement, il a été détruit par sa mère. C'est un adulte qui ressemble encore à un ado, qui n'a jamais eu de relation avec une femme. Et la seule femme de sa vie, c'est sa mère, finalement, qu'il va commencer à regarder quand elle met des décolletés. Des regards s'échangent. On raconte que la nuit, Augusta rend visite à son fils, qui ne dit rien, se laisse faire. Jusqu'au jour où Henry surprend son petit frère en train de dormir avec sa mère. Une dispute éclate, l'aîné menace de tout raconter aux autorités. Une mère qui couche avec son fils, quelle horreur! Quelques semaines plus tard, le 16 mai 1944, un incendie éclate à la ferme. En pleine nuit, les champs alentours qui servent à la famille pour gagner un peu d'argent et se nourrir prennent feu. L'incendie menace la vieille bâtisse. Ed et Henry se réveillent en urgence, réveillés par la lueur des flammes. Les deux frères sortent remplir des seaux d'eau et puis Henry se volatilise. Il sera retrouvé après l'incendie dans le champ. Fait étrange, l'emplacement sur lequel repose le corps est brûlé, mais pas le corps. Henry n'est pas carbonisé par les flammes. De curieux hématomes sont découverts sur son visage. Mais par manque d'intérêt, aucune enquête n'est menée. La cause de la mort reste accidentelle à jamais. Ce n'est que 13 ans plus tard, lorsque l'affaire Ed Gein éclatera, que les enquêteurs vont redécouvrir que la mort d'Henry, au vu des rapports, n'était pas peut-être pas si naturel que ça et qu'on a possiblement voulu le faire taire. Ed et Augusta se retrouvent donc seuls à la ferme. Ils survivent tant bien que mal. Enfin, pas longtemps pour Augusta qui fait un premier AVC après la mort de son fils aîné. Elle survit, mais le 29 décembre 1945, son cerveau se bouche de nouveau. Augusta Gein meurt à l'âge de 67 ans sans imaginer une seule seconde à quel point sa mort va plonger son fils dans la folie. Ed Gein perd ce jour-là la seule femme de sa vie, sa seule amie, sa seule petite copine, son amante, sa propre mère. Ed va veiller le corps de sa mère jusqu'à son enterrement le 31 décembre, un enterrement discret avec quelques proches. Ed sera en larmes tout au long de la cérémonie. À son retour à la ferme ce 31 décembre 1944, Ed Gein rentre pour la première fois de sa vie seul chez lui dans cette grande bâtisse au milieu de nulle part. Pour être sûr que la foi de sa mère soit respectée au fil des siècles à venir, lui qui prend Augusta pour une sainte va sceller la chambre de celle-ci. Il met des cordes, du scotch, des croix pour que l'âme de sa mère soit à jamais en paix dans cette pièce. Seul chez lui, Ed Gein plonge et même dégringole dans la folie pure. Une plongée en enfer. Bon, nous y voilà. Ed Gein est maintenant seul dans sa ferme. Il n'a plus personne. Son père, sa mère et son frère aîné sont morts. Et il se retrouve comme ça, livré à lui-même, alors que ça fait plus de 35 ans qu'il est dans le cocon familial. Pas faire grand-chose de sa vie. Il est complètement paumé. À la ferme, Ed se sent observé, il croit devenir fou, il voit le visage de maman partout, il croit entendre Augusta lui donner des ordres ou lui lire la Bible comme lorsqu'il était enfant. Ed se met à lire de drôles de choses en rapport avec la mort, le monde mystique qu'il pourrait y avoir après. Il tombe aussi de temps en temps sur des histoires parlant de cannibalisme et lit des articles à propos des horreurs de la Seconde Guerre mondiale qui à l'époque sont toujours en train d'être découvertes et répertoriées. Et ça l'intéresse pas mal, en tout cas, ça le désensibilise tout doucement aux horreurs qu'il va commettre plus tard. Vous l'avez peut-être remarqué à travers toutes les HVF spéciales tueurs en série que j'ai pu faire, mais la plupart des tueurs en série ont ce moment où ils se désensibilisent de la mort. Certains s'attaquent à des animaux, d'autres tabassent leurs camarades jusqu'à les rendre inconscients. Eh bien, Ed Gein, quant à lui, lit beaucoup d'horreurs. Bon, alors, bien sûr, il y a des exceptions, comme BTK, si vous vous souvenez, qui, dès ses premières victimes, veut s'attaquer à toute une famille. Il entre dans la maison, c'est un carnage, c'est le pire début de tueur en série qu'on ait pu voir. Ed Gein, pour se faire un peu d'argent, travaille comme garçon à tout faire. Il est connu pour être l'idiot du village. Dans Plainfield, tout le monde le dit un peu bébête. Il regarde bizarrement les filles quand il travaille ici et là, puis il rentre à sa ferme le soir. Mais bon, à l'époque, on lui excuse ses petits regards pervers à ce pauvre garçon qui vit seul au milieu de nulle part. Plusieurs fois, en pleine crise, il essaie d'invoquer l'esprit de sa mère, mais celle-ci ne viendra jamais. Ed continue de lire ses petites histoires et un jour, l'un des articles qu'il lit parle des meurtres commis par William Burke et William Hare, deux trentenaires qui, pendant un an, entre 1827 et 1828, ont revendu des corps aux instituts médicaux d'Édimbourg en Angleterre. Pour se remettre rapidement dans le contexte de l'époque, au début du 19e siècle, il y a une pénurie de corps à dépecer et à étudier à l'université d'Édimbourg, qui a beaucoup plus d'étudiants que de corps à analyser. Les gens meurent plus assez vite et donnent plus leur corps à la science. Alors, Burke et Hare vont piéger 16 personnes à qui ils vont louer une chambre en ville, les étouffer et revendre leur corps à l'université. Première étape dans la tête d'Ed Gein, tiens, ça l'intéresserait de voir l'intérieur d'un corps, mais pour l'instant, ça va pas plus loin. C'est pas ça qui va le pousser à aller dans le cimetière de Plainfield pour déterrer Jacy et Camille. Non, non. Ce qui va commencer à le tilter un peu, c'est lorsqu'il va lire l'histoire d'un club d'aristocrates qui aurait existé au siècle dernier et qui ont créé une secte pour aller déterrer le corps de jeunes filles dans les cimetières du coin pour ensuite en abuser tous ensemble. Et là, ça tilte Ed Gein. Là, ça lui fait des petites chatouilles dans le pantalon et il se dit que, bah ouais, tiens, ça pourrait être pas mal quand même d'aller chercher les jeunes femmes fraîchement enterrées pour qu'enfin il ait un petit peu de compagnie dans sa ferme. Ce serait simple, il suffirait de lire régulièrement la rubrique Nécrologie de Plainfield et d'aller au cimetière en pleine nuit. Quelle merveilleuse idée! Je rigole, hein, c'est pas une merveilleuse idée. On ne sait pas quel jour précisément Ed Gein découvre qu'enfin une jeune femme a été enterrée au cimetière du coin, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il s'y rend avec sa pelle en pleine nuit. Au cimetière de Plainfield, aucune surveillance à 7 heures. Pour la toute première fois, celui qui sera surnommé plus tard le boucher de Plainfield creuse. Il se dit qu'il va enfin avoir une petite amie, ne plus être seul. Il attaque encore et encore la terre jusqu'à voir le cercueil. Il descend dans la fosse, ouvre la caisse en bois et attrape le corps. C'est bien une jeune femme comme indiqué dans la rubrique Nécrologie. Ed Gein s'empresse de rentrer chez lui plus excité que jamais. À partir de ce moment-là, Ed est parti pour vivre 10 ans au milieu des corps. Avec sa première victime, il fait quelques expériences, il expérimente ce qu'il a lu ces derniers mois à travers toutes ces histoires. Dans un premier temps, il abuse de sa victime jusqu'à ce que le temps et l'air libre fassent son travail. Alors, pour conserver celle qui est devenue sa seule amie, Ed Gein va se mettre à dépecer, puis à tanner la peau. Il travaille différents bouts de peau pendant des heures et en fera par la suite toutes sortes d'objets que l'on verra plus tard. Une fois que le corps a trop souffert, Edgen s'en débarrasse dans les alentours de la ferme. Sa première expédition au cimetière ayant réussi, Ed ne s'arrête plus. Il dira plus tard avoir ciblé 3 cimetières principalement dans les alentours de Plainfield. Son mode opératoire est bien rodé. Il regarde la rubrique nécrologie, se rend au cimetière la nuit, creuse et ramène tout ce beau monde chez lui. Quand il a des semaines un peu trop chargées niveau boulot parce qu'il faut bien qu'il gagne un peu d'argent quand même, Edgen stocke tout ce beau monde chez lui et attend sagement le week-end, c'est son petit moment de détente. Il sort de ses grands sacs ses nouveaux amis, les place dans le canapé du salon et prend un petit apéro avec eux, racontant sa semaine. Bon, la discussion est à sens unique, vous imaginez bien, il n'y a pas grande ambiance aux soirées organisées par Ed. T'es là, tu meurs, t'as rien demandé à personne et d'un coup tu te fais déterrer par Ed qui te pose au milieu de son salon pour discuter tranquillement avec toi. Ton corps pourrit et cet enfoiré, il finit par te transformer en lampe de chevet. Même mort, on n'est plus tranquille. Et puis, l'hiver venu, il se dit que ça caille un peu, que ce serait sympa d'avoir une seconde peau. Alors, plutôt que de créer des objets avec ses victimes, eh bien, il se fait un petit pantalon. Pourquoi pas après tout? La bâtisse d'Edgen est toujours bien chauffée avec le poêle qui tourne à fond pour que la peau, il le dira plus tard, n'ait pas la chair de poule. Et le pire dans tout ça, c'est que Ed ne se cache même pas. Plainfield, c'est un petit coin et les gamins aiment bien jouer dehors et dans les alentours de la ferme. De temps en temps, ils viennent toquer à sa porte, demander un verre d'eau ou des gâteaux pour le goûter par exemple. Plusieurs d'entre eux ressortiront traumatisés de chez Edgen et raconteront à leurs parents qu'ils ont vu des têtes posées sur les meubles, que la maison est hantée, que des gens qui ne parlent pas et ne bougent pas sont posés dans le canapé ou accrochés à des crochets dans la buanderie comme le découvriront plus tard les flics de Plainfield. Mais personne ne croit les gamins, ils se font sûrement des films. Edgen, c'est le débile du coin, il ferait pas de mal à une mouche. Il paie ses articles à l'épicerie, est toujours dispo pour un petit boulot, peut-être qu'il entretient pas bien sa maison, c'est tout. Imaginez la tronche des parents quand ils ont enfin vu les images de l'intérieur de la ferme et qu'ils ont compris que les gamins ont jamais menti. L'un d'eux racontera d'ailleurs « Une de ces fois où nous étions là-bas, j'ai demandé à Ed où je pouvais trouver du papier. Il m'a dit d'aller dans sa chambre. Lorsque j'ai franchi le seuil, il y avait 3 têtes accrochées à la porte. Juste les têtes, avec la peau, les cheveux, tout ça. J'ai rien dit. » Lorsque certains invités lui posent trop de questions, Ed répond simplement que toutes ces babioles qui sont dans la ferme, eh bien, lui sont envoyées par un lointain cousin qui vit dans un autre pays. Et puis, posez pas trop de questions les gamins si vous voulez pas finir en tabouret humain. Il rigole, bien sûr, quand il dit ça. Non. Et il y a aussi un côté d'Edgen dont j'ai rarement entendu parler, mais lorsqu'on creuse un peu, surtout du côté des psychiatres qui l'ont interrogé par la suite, c'est qu'au fond de lui, il a toujours voulu être une femme pour ressembler à sa mère. Alors, de temps en temps, il revêt des visages de vraies femmes, se fait des gants en peau pour lui aussi avoir de belles et douces mains de femme sur lesquelles il met quelques jolies couleurs. Je pense qu'on est bon, vous avez compris qui était Ed et pourquoi il est autant populaire aujourd'hui. J'ai pas besoin de vous parler de la ceinture en téton qu'il s'est confectionnée ou de son casque en crâne humain. Mais surtout, si Ed est autant populaire aujourd'hui, c'est parce qu'il a une seconde casquette, celle de tueur en série. Retour à la ferme. Au moment de l'arrestation d'Edgen et de la découverte de sa ferme, toute la petite ville de Plainfield est en ébullition. Jamais il n'y avait eu autant de monde dans le coin. Une centaine de journalistes débarquent de tous les états. On a le Milwaukee Journal qui devrait d'ailleurs faire attention à ce qu'ils écrivent parce que dans 3 ans, Jeffrey Dahmer va naître et dans quasiment 20 ans, ce sera Milwaukee qui va être sous le feu des projecteurs. On a des journaux de Chicago, Madison Capital, Minneapolis, le célèbre Time est aussi là. L'affaire devient nationale. La plupart des Américains découvrent l'existence de Plainfield. Et même si tous ces journalistes sont haïs par les enquêteurs qui ne peuvent pas faire 5 mètres dans Plainfield sans être harcelés, eh bien c'est grâce à eux si aujourd'hui on a autant de détails sur le moment de l'arrestation d'Ed Gein et autant de photos de sa ferme. À l'intérieur de la bâtisse, plus les enquêteurs fouillent, plus ils se disent qu'Ed Gein est sûrement l'un des pires tueurs en série que le coin ait connu. À ce moment-là, personne ne sait que la plupart des pots et objets trouvés proviennent des tombes du coin. D'après des listes que l'on retrouve sur divers sites, on a dans la ferme d'Ed Gein une poubelle en peau humaine, des crânes posés sur les tables de chevet, des bols et couverts en peau, des gants humains. Je vous mettrai après la sortie de cet HVF sur mon Twitter, sous le post indiquant la sortie de cette affaire, les photos de l'intérieur de la ferme de Ed, parce que vous imaginez bien qu'on est sur YouTube et je peux pas vous balancer comme ça des images de morceaux de corps humain publiquement sans auto-détruire cet HVF. Mais ce qui inquiète surtout les enquêteurs de l'époque qui sont mis sur l'affaire Ed Gein, c'est que, il ment, parce qu'il dit que tout ce qui est retrouvé dans sa ferme provient des cimetières alentours. Mais c'est faux, puisque des parties intimes d'adolescentes sont retrouvées, séchées et conservées dans la bâtisse. Or, ces 10 dernières années, aucune jeune fille ou adolescente n'est décédée dans le coin. Par contre, certaines ont été portées disparues. Georgia Weckler, 8 ans, le 1er mai 1947, se volatilise en rentrant chez elle après l'école. Aucun cri, pas de sang, rien de rien. Juste des traces de pneus de marque Ford. Marque qui correspond à la voiture que conduit Ed Gein. En octobre 1953, c'est Evelyn Hartley, 15 ans, qui disparaît pendant une soirée babysitting. Après avoir couché les enfants, elle s'évapore. Ses chaussures et ses lunettes seront retrouvées sur le sol de la maison. Seule la porte arrière de la cave était déverrouillée ce soir-là. Son sang sera retrouvé sur cette porte arrière et jusque dans le jardin. L'adolescente ne sera jamais retrouvée. Ce qui prouve surtout aux enquêteurs qu'Ed Gein ne dit pas tout concernant le possible fait qu'il est un tueur en série, c'est que tant qu'il n'a pas de preuves sous les yeux, il n'avoue rien. Par exemple, prenons le cas de Mary Hogan qui disparaît le 8 décembre 1954 alors qu'elle travaille au bar du coin. Comme ce sera le cas pour Bernice Worden, la femme disparaît d'un coup, brutalement, alors qu'aucun client n'est présent dans la taverne. Des taches de sang seront découvertes sur le sol avec des cartouches de fusil vides par terre et une traînée sanglante jusqu'au parking. Au début, Ed dit ne rien savoir jusqu'au moment où on découvre la tête desséché de Marie chez lui. Là, il avoue. Il n'est pas si bête que ça, Ed Gein, puisque des experts psychiatriques vont se pencher sur son cas et déclarer qu'il a un QI tout à fait normal, voire au-dessus de la moyenne, plus ou moins 100. Mais par contre, il souffre de schizophrénie qui n'a pas été traitée depuis des années et des années. Ed, parfois, a des hallucinations, c'est pour ça qu'il a l'impression que sa mère lui parle. Et surtout, d'après les experts, il ne fait quasiment pas la différence entre le bien et mal. Sauf que tout ça, c'est du pipotage. Dès le début, dès que Ed Gein est arrêté, il sait parfaitement comment s'en sortir et surtout comment échapper à l'enfer carcéral. Il avoue les meurtres seulement lorsqu'il y a des preuves, alors même que l'on retrouve chez lui des restes humains qui ne proviennent pas de cimetières, dont un squelette complet de jeune fille à qui il manque seulement la tête. Mais les enquêteurs ne pouvant pas l'identifier n'auront jamais son nom de la part d'Ed Gein. Il dit ne pas se souvenir de certaines choses. Son seul but à ce moment-là, c'est d'être déclaré inapte à être jugé et il le dit même à l'enquêteur Willimowski qui s'occupe de lui pendant les trajets. Je cite « Je pense que je les ai bien convaincus. » Bon, en tout cas, j'espère. Plé dans la folie, Ed Gein va pendant 10 ans vivre en hôpital psychiatrique. Interné, il va parler un peu plus librement de ses crimes, et s'il a fait ça, c'est toujours, d'après lui, la faute des autres. Par exemple, il s'est attaqué à Bernice et Marie parce qu'elles ressemblaient à sa mère et qu'il les voulait chez lui. S'il a commis toutes ces horreurs, c'est parce que personne ne s'est jamais intéressé à lui. Il avait pas d'amis, pas de femme, n'était pas marié, donc il a bien fallu qu'il se crée lui-même sa propre compagnie. Pendant ce temps, la ferme d'Edgen et ses divers objets vont être mis aux enchères et des visites payantes vont être organisées jusqu'au 27 mars 1958, 4 mois et demi après l'arrestation de celui que l'on surnomme à l'époque la goule de Plainfield, puisque la ferme va être incendiée et réduite en cendres. Seuls de la ferraille et la voiture d'Edgen qui lui avait servi pour transporter les corps vont être vendus. La voiture sera vendue une petite fortune pour l'époque à un forain nommé Bunny Gibbons qui va exposer le véhicule dans ses différentes foires. Après 10 ans de psychiatrie, en 1958, Ed a finalement été déclaré apte à être jugé, les médecins le considérant désormais comme, je cite, « mentalement capable ». Le procès va se passer sans jury sur demande des avocats d'Edgen, puisque n'importe qui l'aurait déclaré coupable avant même d'entendre l'accusation et la défense, vu toute la médiatisation autour de l'affaire. Seul le juge Robert H. Golemar sera amené à rendre une décision. Dans une première partie du procès, il va déclarer Edgen coupable des meurtres de Marie et Bernice. Dans une seconde partie, son état mental va être discuté. Ed plaide au moment des meurtres la folie, mais il se dit maintenant totalement guéri et veut bien retrouver la liberté. Bah oui, quelle bonne idée! Qui rêverait pas d'avoir Ed en voisin? À tout moment, le type peut vous transformer en meuble de salle de bain. Heureusement, le juge Golemar ne va pas accepter la libération. Edgen est condamné à passer le restant de ses jours dans un asile. Le 26 juillet 1984, à l'âge de 72 ans, il meurt d'insuffisance respiratoire. Edgen emporte avec lui ses secrets et son nombre réel de victimes. La nuit suivant sa mort, il est enterré discrètement aux côtés de sa famille. Sur la même ligne du cimetière de Plainfield se trouvent Henri, Ed, Augusta et Georges. Aujourd'hui, sur l'emplacement de la ferme, il ne reste plus rien, la nature a repris ses droits, la voiture d'Edgen qui a été achetée par Bunny Gibbons a totalement disparu, personne ne sait où elle peut être, certainement abandonnée quelque part en Amérique ou bien revendue pour destruction. Le nombre exact de victimes qu'a pu faire Edgen en 10 ans n'a jamais été connu, puisqu'il est de ces tueurs en série qui, sans preuve formelle, n'avouent rien. Edgen fait partie de ces tueurs en série qui survivront au siècle futur grâce aux œuvres qui ont repris son histoire. Le Silence des Agneaux, Carrie de Stephen King, Massacre à la tronçonneuse. Edgen continue et continuera de fasciner les générations futures.
Si vous avez regardé cet HVL jusqu'au bout, mettez cimetière en commentaire puisque, Ed, la majorité de ses victimes, de ses meubles, de ses objets ont été confectionnés grâce aux gens qu'il a déterrés dans les cimetières du coin. N'hésitez pas à me dire si cet HVF vous a plu, parce que je sais que le cas Edgen, c'est une affaire assez connue, mais bon, j'ai essayé d'apporter des petits détails et surtout, j'avais très envie d'en parler sur la chaîne, à ma façon et comme d'habitude, avec des illustrations. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, j'ai hâte de lire vos commentaires sur l'affaire. On se retrouve sur Twitter et Instagram, et puis vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye!